Dialogue entre Congolais ce soir, les évêques du Sud Kivu et des leaders des confessions religieuses de la RDC, du Rwanda, Burundi et Ouganda décident de s'impliquer dans le règlement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Pourquoi cette initiative? De quelle manière l'implication des religieux peut apporter une solution sur terrain à l'est du pays? Pour les auditeurs, Bernard Bakourou de Mbandaka se demande, le conflit de l'est étant un conflit armé, comment les évêques comptent atteindre leur objectif? Katembo Mwanga de Kanyabayonga au Nord Kivu voit mal l'implication des confessions religieuses étrangères car, dit-il, cela risque de compliquer encore la situation. Kana Lina Papi de Isiro dans la province orientale, lui, croit en l'implication des confessions religieuses en faveur de la paix, ceci, je cite, à cause de leur complicité avec des politiciens. Quant à Kalonji Arcel de Mbujima, au Kassai oriental, il croit que l'implication des religieux est une distraction. La tâche revient, pense-t-il, au gouvernement, car c'est à l'est que le président fut élu en masse. Nous avons tous nos invités dans ce dialogue entre Congolais au téléphone. Il s'agit de l'abbé Jean Bosco Bahala, directeur de communication de l'archidiocèse de Bukavu, Monseigneur Kuyendondo, président provincial de l'église du Christ au sud de Kivu, et le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Théophile Mirindi. Nous avons tenté en vain d'avoir le révérend pasteur qui vient du Rwanda, Richard Morigandé. Mais nous disons bonsoir à tous nos invités et bonsoir à tous.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Monseigneur Maroy, archevêque de Bukavu et des évêques de l'Assemblée épiscopale de la même ville, avait donné le ton il y a quelques jours en interpellant les autorités congolaises et la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans les deux Kivu. Cette fois, ce sont les responsables des confessions religieuses de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda qui veulent s'impliquer dans cet édifice. C'est ce qui ressort de la clôture ce jeudi à Bukavu, au Sud Kivu, de la conférence des leaders des églises et confessions religieuses et des organisations sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs. Les délégations des pays de cette région et des organisations partenaires ont convenu d'œuvrer pour la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils ont opté notamment de contacter les différents groupes armés en vue de leur rapatriement. C'est ce que nous rapporte Astrid Mujinga qui a couvert cet événement.
Plus d'une centaine de personnes en provenance des pays des Grands Lacs et d'autres délégués y ont pris part. Il s'est agi des leaders des églises et confessions religieuses, des délégués des organisations telles que les forums écuméniques des Grands Lacs, GLEF en sigle, la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA en sigle, la communauté des conseils chrétiens de la région des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique, CECLA en sigle. À l'issue des trois jours de travaux, plusieurs résolutions ont été prises. La principale est l'implication des églises dans le processus des rapatriements de réfugiés, comme l'explique Katunga Murula, conseiller catholique régional de l'ONG catholique Release Services pour l'Est de l'Afrique et facilitateur dans cette conférence.
Elles ont décidé de commencer à prendre contact avec ces groupes armés directement et de jouer le courroie de transmission avec ceux-là qui doivent leur permettre à se concentrer dans des camps pour le rapatriement, quoi, et commencer à entrer en contact avec les groupes armés, à entrer en contact avec les gouvernements de cette région, à entrer en contact avec l'ONU et entrer en contact avec les partenaires internationaux, à faire le plaidoyer auprès des gouvernants de cette région et qu'ils prennent des mesures conséquentes pour s'impliquer de façon décisive dans les rapatriements pour que finalement la décision ne soit pas seulement des paroles, mais des actes concrets qui vont amener finalement ces rebelles à rentrer chez eux.
Cette conférence organisée par l'Église du Christ au Congo a bénéficié de la l'appui du gouvernement norvégien ainsi que du Centre interculturel de la Norvège et des églises de Pentecôte de Norvège. De Bukavu, Astrid Mujinga, pour Dialogue entre Congolais.
Merci Astrid Mujinga. Monseigneur Kouye Ndondo, je rappelle que vous êtes président provincial de l'église du Christ Congo au niveau de la province du Sud Kivu. Vous avez pris part à ce forum comme organisateur. Pourquoi cette initiative, notamment prendre des contacts avec les groupes armés, les gouvernants et la communauté internationale?
Messieurs les journalistes, bonsoir. Vous savez que l'Église reste à côté du peuple. L'initiative que nous avons prise, ce n'est pas la première fois que l'Église prenne une telle initiative. Pendant la rébellion du RCD, nous nous sommes concentrés encore en confession religieuse pour que le monde sache ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons organisé à 2000 une symposium pour la paix que nous avons tenu à Boudin. Nous l'avons voulu organiser ici à Bukavu, mais le RCD ne nous a pas permis. Nous l'avons fait à Butembo. Et en tout cas, c'est un des éléments qui a fait que les choses marchent vite pour qu'on arrive au dialogue intercongolais. Nous trouvons à la base avec la population qui souffre tous les jours, nous nous sommes dit qu'il faut organiser quelque chose. Et nous n'avons pas pu le faire seul, c'est-à-dire les confessions religieuses du Sud Kivu.
Et pourquoi prendre cette initiative seulement maintenant, Monseigneur? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi prendre cette initiative seulement maintenant?
C'est parce que la population continue à mourir, messieurs les journalistes. Vous connaissez ce qui se passe à Kamiola, plus particulièrement, et vous connaissez les femmes qui sont violées. Si vous arriverez un jour à l'hôpital des femmes ici à Bukavu, vous vous rendrez compte de ce qui se passe ici à l'est. Nos populations, qui avec lesquelles les pays qui les tuent, ne peuvent pas souffrir comme ça, et l'Église, les professions religieuses, croiser les bras. Nous devons faire quelque chose.
Voilà.
Donc, c'est la faute de la tête, devant les souffrances de la population. Nous nous sommes dit, il ne faut pas rester, et sans rien faire, comme je l'ai dit, qui ne risque rien, n'a rien. Nous nous sommes dit, nous devons quand même faire quelque chose, et nous avons voulu associer nos collègues du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, et les associations internationales des églises qui étaient représentées aussi ici.
Merci Monseigneur. On a compris que c'est à cause de la situation, de l'évolution de la situation sur le terrain, que vous avez organisé ce forum. Il y a Monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala qui est aussi avec nous dans cette émission. Vous êtes directeur de communication de l'archidiocèse de Bukavu. Vous avez aussi participé à ce forum dont parle Monseigneur Kouye Ndondo. Mais certains auditeurs de Radio Okapi, fidèles à cette émission, sont quelque peu sceptiques quant au succès de votre initiative. Il y a entre autres Bernard Bakour de Mbandaka. Pour lui, le conflit est un conflit armé. Alors, il se demande comment les évêques que vous êtes comptez atteindre votre objectif, donc le retour de la paix dans les deux Kivus. Il y a aussi Kana Lila, papy de Isiro dans la province orientale. Il dit qu'il croit en fait en l'implication des confessions religieuses en la faveur de la paix, car selon lui, les responsables religieux sont souvent complices des politiciens. Cela semble même quelque peu ironique. Votre avis, monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala?
Oui, je voudrais vous remercier d'abord et donner quelques précisions. Je voudrais vous dire donc que la réunion qui a eu lieu à Bukavu a été organisée donc à l'initiative des églises évangéliques, des églises protestantes, donc de l'église du Christ au Congo. Et Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Maroy, archevêque de Bukavu, qui représentait la conférence des évêques du Kivu, y était donc comme invité. Simplement. Mais le but de l'initiative nous tient à cœur également. Et c'est ce que Monseigneur avait dit dans dans sa contribution. Et cette initiative, elle est bonne dans la mesure où ceux qui souffrent et ceux qui sont chaque jour massacrés sont nos fidèles, sont nos frères et sœurs. Et nous, par exemple, dans l'Église catholique, ce n'est pas donc aujourd'hui seulement que nous prenons cette initiative. Il faut savoir tout le rôle que l'Église a joué, ou les Églises, dans leur ensemble. Lorsque nous étions en pleine rébellion, vous savez, pendant ces événements, dans les 10 ans qui viennent de passer, l'Église catholique à Bukavu a perdu pratiquement 4 évêques, Monseigneur Mouziroua, qui a été tué en 96, Monseigneur Catalico de Rose Mémoire, qui est mort en 2000 d'épuisement, et donc aujourd'hui encore, l'archevêque de Bukavu, dernièrement, dans une lettre qu'il a adressée à l'ambassadeur de France, a tiré la sonnette d'alarme parce qu'il voyait les mêmes signes avant-coureurs de grands troubles qui viennent ici mortifier et mettre le pays en danger. Et il a donc tiré la sonnette d'alarme. Alors pour répondre à la question ou aux préoccupations de
Monsieur l'abbé, Monsieur l'abbé Jean Bosco,
je crois du ressort de l'Église, par exemple. De combattre contre des groupes armés.
Merci, monsieur l'abbé Jean Bosco. Je rappelle que vous êtes directeur de communication de l'archidiocèse du Sud Kivu. Nous avons aussi en ligne Théophile Mirindi. Vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Que pensez-vous de cette initiative des leaders des églises, des confessions religieuses et des organisations sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs? Voilà, on a perdu le vice-président de l'Assemblée provinciale. Je rappelle le sujet de ce dialogue entre Congolais, les évêques du sud de Kivu et les leaders des confessions religieuses de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda décident de s'impliquer dans le règlement de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comment l'implication de ces leaders religieux peut-elle apporter une solution sur terrain à l'est du pays? Nous en parlons tout de suite avec l'abbé Jean Bosco Bahala de l'archidiocèse du Sud Kivu, Monseigneur Kouyendondo, président provincial de l'Église du Christ au Congo au niveau du Sud Kivu, et le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Théophile Mirindi.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Nous retrouvons M. l'abbé Jean Bosco Bahala. Comment pensez-vous réussir cette mission, même si vous dites que vous avez participé à ce forum en tant qu'observateur, si on vous a bien compris?
Oui, exactement. Donc je disais que ce n'était pas une initiative, parce que l'Église catholique prend aussi d'autres initiatives dans le cadre de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, qu'on appelle ASEAC, et qui comprennent donc tous les évêques de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda. Mais les initiatives qui sont prises ne sont pas, si je puis dire, ponctuelles. C'est tout un processus qui est en cours depuis plusieurs années, où les églises essaient de montrer aux dirigeants de l'Afrique centrale que c'est la coopération entre nos peuples qui va sauver l'Afrique centrale de la pauvreté et des violences nées des clivages entre ethnies et groupes humains.
Merci, monsieur l'abbé, parce que nous avons retrouvé Théophile Mirindi, il est vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Qu'est-ce que vous pensez Monsieur Théophile Mirindi, de cette initiative des religieux?
Oui, en soi, l'initiative est bonne. Je commence par constater que la géographie du conflit telle que se présente, c'est une géographie qui tient compte de l'internationalité même du conflit. Ça veut dire que les évêques et tous les participants ont conscience que le problème n'est pas un problème du seul Congo ou du seul Kivu, mais c'est un problème au niveau de la région. Mmh. Et partant, je vois les évêques en train d'analyser ces problèmes au niveau d'une dimension qu'ils considèrent comme l'endroit même, le lieu même où les problèmes se posent.
Oui. Nous allons revenir à vous, Théophile Mirindi, nous allons revenir à vous pour voir comment ou quelle chance vous donnez aux religieux pour atteindre leur objectif. Nous allons écouter un pasteur du Rwanda qui a également pris part à la conférence qui s'est achevée ce jeudi à Bukavu. En plus des contacts que ces chefs religieux entendent de prendre avec les groupes armés, ces religieux promettent aussi de faire un plaidoyer auprès des gouvernants et de la communauté internationale. On écoute le pasteur rwandais Richard Morigande, il est secrétaire général de GLEF Core Group Member.
Nous ne pouvons pas faire quelque chose d'important si nous ne collaborons pas avec nos gouvernements. Notre rôle prophétique aussi doit aider le gouvernement à voir notre vision en tant qu'Église.
Tout d'abord, je pense que quand nous allons approcher le gouvernement, il faut y aller avec des informations claires et sûres. Alors, tout d'abord, c'est de vérifier ces informations. Est-ce que réellement il y a des entraînements des rebelles au Rwanda, au Congo? Si nous avons ces informations, nous devons approcher nos gouvernements. Alors, je pense que tout d'abord, il faut éviter des rumeurs. Nous devons être au niveau de la vérification d'informations. Et comme ça, si nous devons faire le plaidoyer, nous devons le faire avec la crédibilité. Mais le Congo, c'est un grand pays, et nous pensons que quand le Congo est stabilisé, quand le Congo a la paix, toute la région, le Rwanda, le Burundi, surtout, nous avons la paix. C'est pourquoi nous devons œuvrer tous ensemble.
Monseigneur Kuyendondo, un autre auditeur de cette émission, qui suit cette émission, Katembo Mwanga de Kanyabayonga au Nord Kivu, lui voit mal l'implication des confessions religieuses étrangères. Je signale que vous, dans cette conférence, vous êtes retrouvé avec des pasteurs du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, et lui pense que leur implication risque de compliquer encore la situation. Qu'est-ce que vous lui répondez, Monseigneur Kuyendondo?
Oui, je pense que les compatriotes ne connaissent pas l'histoire de notre pays. D'ailleurs, je voudrais commencer même à placer un mot sur la question que j'avais posée à M. l'abbé Jean-Bosco Barla.
Oui, allez-y rapidement, monseigneur.
Oui, rapidement, je vais dire que penser que les confessions religieuses ne peuvent pas faire quelque chose de prière des âmes, c'est se tromper. Parce que nous avons eu l'expérience de la commission de vérité et réconciliation, là où les hommes en armes ne pouvaient pas aller, nous, avec la parole, on pouvait y aller, parce que nous avons une certaine crédibilité auprès de tout le monde, parce que nous n'allons pas voir les groupes armés avec des armes.
Oui, mais vous êtes allé, Monseigneur Kouyendono, vous êtes allé là-bas, Monseigneur?
Oui.
Vous êtes allé là-bas, mais qu'est-ce que vous avez fait? Quel résultat vous avez obtenu concrètement?
Le résultat, monsieur le journaliste, vous avez eu les élections dans la paix. Et je vous assure que vous n'allez pas les avoir dans la paix. C'est parce que vous ne savez pas ce que nous on faisait. Et c'est la raison pour laquelle les gens doutent de ce que nous faisons. Vous avez eu les élections, vous avez eu les colis venant des partis là où il y avait des groupes armés sans problème.
Vous voulez dire que c'est vous qui avez permis à ce que les élections se tiennent là où il y avait des groupes armés?
Bien sûr que oui, nous avons contribué énormément. Nous avons mené des négociations à un niveau très élevé pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, ces élections-là. Donc ça, c'est un exemple que je voulais donner pour montrer que nous pouvons faire quelque chose.
Monsieur l'abbé Jean Bosco, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur aussi de Katembo, Kanyabayonga, au Nord Kivu?
Oui, je voulais lui dire simplement qu'il sache que ceux qui portent la parole de Dieu ont une puissance que n'ont pas ceux qui portent des armes. Et comme le disait Monseigneur Couillé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'intervention de l'Église, en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'institution et au niveau des hommes qui la composent, peut sauver beaucoup de situations. Écoutez, par exemple, il a suffi que Monseigneur l'archevêque Monseigneur Maroy et les évêques du Kivu dans leur ensemble, les évêques donc de la province et du Kivu, interviennent et tirent la sonnette d'alarme sur ces massacres et ces désordres qui se passent pour que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a un problème. Donc l'Église peut jouer un rôle. Deuxièmement, Les rencontres que nous faisons entre nous, parce que même ceux qui dirigent, ce sont quand même aussi des gens qui fréquentent nos différentes églises. Il ne faut pas oublier que les autorités sont des personnes. Peut-être qu'elles ne peuvent pas accepter que la médiation de l'église se fasse de façon, si je puis dire, efficace.
Mais comment est-ce que vous ne réussissez pas
ce que nous ne pouvons faire?
Oui, monsieur l'abbé, mais comment est-ce que, ça c'est une question que je vous pose à vous, religieux, comment est-ce que vous dites que vous avez réussi à faire organiser des élections là où il y a des groupes armés, mais pourquoi vous ne réussissez pas à les convaincre de rentrer dans leur pays?
Mais cela n'est pas notre problème. C'est là que justement on parle de l'implication des gouvernants. Lorsque les gens organisent la guerre, lorsqu'ils organisent l'insécurité, lorsqu'ils refusent l'ouverture démocratique, le rôle de l'Église n'est pas de venir taper sur les uns et les autres. Le rôle de l'Église est de rappeler à chacun ses devoirs avec les principes évangéliques qui sont les nôtres. Aujourd'hui, pour résoudre le problème des pays des grands lacs et les problèmes des groupes armés, il ne suffit pas seulement qu'un seul gouvernement décide de les faire partir. Il faut encore que, par exemple, dans le pays voisin, au Rwanda, qu'il y ait une certaine ouverture politique pour leur donner un espace. Il faut qu'on puisse savoir comment se fera la justice en ce moment-là. Parce que ceux qui ont participé au génocide, il faut qu'ils soient jugés et que justice suive son cours. Mais les autres, les réfugiés et les autres, il faut qu'on leur trouve un espace. On ne peut pas donc continuer à les garder au Congo. Il faut que le gouvernement congolais prenne également ses responsabilités pour sécuriser sa population, parce que ces groupes armés sont devenus finalement des groupes de terroristes.
Oui, mais est-ce que vous pensez que...
manipulés par les uns et les autres pour des raisons politiques ou des raisons économiques.
Oui, monsieur l'abbé Jean Bosco, est-ce que vous pensez que vous arriverez à convaincre le gouvernement du Rwanda, par exemple, à accepter ces rebelles qui sont encore sur le territoire congolais? Vous pensez que vous arriverez à le convaincre?
Encore une fois, ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons jamais eu l'ambition de convaincre qui que ce soit parmi ces gouvernements. Nous donnons notre point de vue avec la puissance de la parole de Dieu que nous avons et des principes évangéliques. Nous disons que la voie est d'abord à l'ouverture, au pardon, à la réconciliation. Nous disons que pour résoudre les problèmes des grands lacs, la communauté internationale qui a amené par exemple les réfugiés au Congo doit s'impliquer. Nous disons qu'on doit éradiquer les groupes qui font de la violence, et ce ne sont pas seulement les groupes armés étrangers, par exemple chez nous au Congo. Il y a aussi tous ceux qui sévissent au nord Kivu et au sud et qui refusent le processus d'intégration de l'armée.
Merci,
ces choses-là doivent être prises en charge par les gouvernants.
Ce n'est pas
le rôle de l'Église de convaincre les uns et les autres. C'est le rôle de l'Église de rappeler que les populations qui souffrent on doit à la paix et au développement.
Merci, monsieur l'abbé. Théophile Mirindi, vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Est-ce que vous croyez en cette démarche de religieux, sincèrement?
Oui, y croire, peut-être que c'est trop dur, mais pas y croire également, hein, parce que, comme vous le savez, les évêques relèvent de l'autorité morale. Et je disais tout à l'heure qu'ils ont pris conscience ensemble que le problème était au niveau des trois pays, si j'ai bien compris. On a cité la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Et ça, c'est déjà une bonne appréhension de la question, étant donné que nous connaissons tous l'histoire récente de la conflictualité dans la région. Alors, je voudrais me permettre de penser que l'initiative synergique de contribuer à la résolution du conflit et à l'éradication de la problématique sécuritaire dans la région est une très très bonne initiative. Mais j'ai une réserve et c'est la suivante. Je me dis que pour que nous ayons suffisamment de garanties là-dessus, il faudrait que les évêques, les délégués de chaque pays, soient rassurés que leur autorité morale est suffisamment importante sur les dirigeants de pays respectifs, de telle sorte que les très belles résolutions que j'ai suivies soient très très bien écoutées et aussi appliquées dans les différents pays.
Est-ce que vous êtes, donc apparemment vous ne croyez pas qu'ils seront écoutés, ces religieux, par les gouvernants?
Je ne suis pas pessimiste. Ce que j'ai dit plutôt, c'est d'avoir, d'être rassurés qu'ils seront écoutés. Et j'ai dit également que, comme ce sont des personnalités qui relèvent de l'autorité morale, il y a de fortes chances qu'ils soient écoutés par certaines sphères de pouvoir public. Mais je ne dis pas non plus que c'est un acquis, parce que pour y arriver, je dois être rassuré que chacun, en ce qui le concerne, a cette force. Et j'ai entendu l'abbé Baala parler de la puissance de la parole de Dieu. Mmh. Et bien, je peux bien souhaiter que cette puissance-là et toute sa force
puisse convaincre les politiques
et puisse être acceptée de manière à convaincre les différents pouvoirs.
Merci beaucoup, Théophile Mérindi. Avant de poursuivre le débat, nous allons d'abord voir ce que pensent les politiques justement de cette situation à l'est du pays. Signalons à ce sujet la fin ce jeudi à Lubumbashi de la tripartite plus 1. Le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, le Burundi ont évalué la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. S'exprimant devant la presse, le ministre congolais des Affaires étrangères a estimé que les réunions de la tripartite plus 1 ne sont pas inutiles. Pour Mboussa Nyamusi, ces réunions ont l'avantage de mettre côte à côte anciens ennemis qui ont échangé dans le respect et la compréhension mutuelle. Mboussa Nyamusi affirme également que les pays de la tripartite sont quasiment obligés d'établir les relations diplomatiques entre eux. On écoute le ministre congolais des Affaires étrangères. Mboussa Nyamusi est au micro de Paul Saboba.
Quel est le prix de la paix dans la région, malgré vos réunions, plusieurs sessions, on ne voit pas. Je crois qu'il faut quand même voir les choses dans leur juste dimension. Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont évolué. Il y a de cela quelques années, on ne se serait pas mis avec mon ami et frère le ministre rwandais de la Défense comme ça, ensemble, en train de discuter dans toute l'amitié, la compréhension mutuelle, le respect mutuel, en train de rechercher tous des solutions à nos problèmes. Je pense que c'est une grande évolution. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce n'était pas possible, ça. Il faut reconnaître qu'il y a des évolutions. Nos réunions ne sont pas inutiles, elles sont très importantes. Même celui qui en appelait au rétablissement de la sphère diplomatique, je pense que l'évolution de la cohésion entre nous, de la compréhension mutuelle, de la compréhension de nos problèmes de la même manière, va à coup sûr, et je l'imagine à court terme, nous amener à l'établissement de la sphère diplomatique. Nous n'avons pas d'autre choix.
Sachez que dans un communiqué publié toujours à la fin de cette réunion de la tripartite plus 1, le gouvernement congolais a émis le vœu de voir les groupes armés étrangers quitter son territoire. Un autre son est venu du RCD d'Azarias Robérois. Dans une déclaration politique du 5 juin dernier, le RCD demande au gouvernement de finaliser le processus de la table ronde entre les forces vives des deux Kivu. Écoutons le porte-parole du RCD, Kabasubabu Katulondi, au micro de Radio Okapi.
Le RCD encourage le gouvernement à finaliser les processus entamés, à tenir la table ronde de ce qu'on appelle au Kivu et à obtenir impérativement l'implication du gouverneur issu du PPRDNP et de l'arsenal des Mugabous qui a pourtant utilisé les concepts des procureurs de la paix pour sa lettre controversée en vue de la tenue de cette rencontre pour la paix. Avec insistance, les RCD proposent que la conférence dont mission soit tenue le plus durement possible et que le dialogue franc ait lieu entre les communautés pour une paix durable dans les Kivu, car il existe un lien indéniable entre l'absence de réconciliation, l'insécurité et l'État dans le développement. Tant que les extrémistes locaux, manipulés par l'orchestre de Kinshasa, ne seront pas exorcisés de leur haine viscérale, les Kivu demeureront un foyer d'instabilité permanente et sous-développée. Les RCD demandent également au gouvernement de traiter avec les États voisins, selon les normes diplomatiques qui favorisent le règlement pacifique des différends, sans favoriser les accusations parfois mensongères et fantaisistes des personnes en plus non
Monseigneur Kouyendondo, est-ce que votre démarche des religieux recoupe celle des politiques que vous venez de suivre ou vous voyez les choses autrement?
Je ne saurais pas exactement dire si ça se recoupe parce que j'entends d'ailleurs un peu mal la voix sur mon appareil, mais je pense que ce qui s'est passé, par exemple, à Lubumbashi, c'est presque dans le même objectif, c'est-à-dire avoir la paix. Et je pense que
à ce qui nous concerne ici, au sud du Kivu, vraiment, et aussi au nord du Kivu, et surtout à l'est de la République démocratique, notre préoccupation, comment on peut avoir la paix. Les politiques peuvent faire une chose, d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais nous voulons aussi contribuer par nos moyens.
Okay.
Il faut voir aussi, lorsqu'on parle de la guerre, on va, par exemple, faire la guerre contre les êtres de mer. Nous pensons que on va tuer nos chrétiens encore. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'on puisse privilégier les dialogues d'assistance et pour que ces gens, on puisse les faire partir chez eux en paix, sans qu'il y ait la guerre.
Oui, mais vous voulez, Monseigneur Kouilondo, vous privilégiez le dialogue, mais vous n'évoquez pas la table ronde, notamment, à laquelle fait allusion le porte-parole du RCD.
Moi, je pense que la table ronde, ça, c'est une autre chose. Je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de la table ronde proposée par le gouvernement. Et sur ce terrain, je ne peux jamais rien faire à dire. Il faut que je comprenne davantage pour que je puisse émettre mon point de vue.
Ah oui, Monsieur l'Abbé Jean Bosco Bahala, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la démarche des religieux? Vous êtes vous-même religieux et donc vous partagez ce que ont fait les autres délégués des confessions religieuses. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, de votre démarche par rapport à celle des politiques?
Bien, d'abord je vais saluer ces réunions qui se font de façon régulière, encore qu'on peut se demander s'il y a une certaine sincérité de la part des différents gouvernements, parce qu'ils peuvent venir faire des rencontres, mais par ailleurs organiser la guerre. Mais moi je vais surtout réagir à propos de cette fameuse table ronde. Vous le savez, Monseigneur l'archevêque de Bukavu, mais aussi les évêques du Kivu dans leur ensemble, on dit pratiquement non à ces tables rondes, et même les élus du nord et du sud Kivu, qui avaient même quitté bruyamment l'hémicycle du Parlement, parce qu'ils disaient que le gouvernement congolais était en train de faire une fausse lecture des problèmes que nous avons. Le président de la République, Joseph Kabila lui-même, lorsqu'il répondait aux journalistes à Brazzaville dernièrement, lors de la rencontre à Brazzaville, avait bien défini quels sont les problèmes qu'on a au nord et au sud Kivu. Il s'agit des groupes armées étrangères, Interahamwe, Rasta et compagnie, je ne sais pas encore, des bandits à main armée qui sont en train de tuer la population. Il y a aussi le problème des militaires réfractaires au brassage, réfractaires à l'unification de l'armée. En quoi les communautés ou les tribus qui vivent dans le sud et le nord qui vous sont concernées par ces problèmes? Il y a donc un problème de sécurité, il y a un problème militaire, il y a aussi un problème peut-être politique de ceux qui ont perdu la guerre et qui aimeraient d'une manière ou d'une autre déstabiliser le gouvernement qui est en place.
Oui, mais monsieur l'abbé.
Les communautés doivent-elles se rencontrer pour ça? Ça ressemble à de la distraction.
Oui, monsieur l'abbé.
Nous pensons qu'il faut envoyer, si dialogue il faut avoir, les gens se posent des questions, ils disent, mais est-ce que nous allons commencer maintenant, nous allons considérer par exemple les Interahamwe comme une communauté du sud Kivu avec laquelle nous devons causer parce que c'est elle qui a tué, c'est eux qui ont tué, disons.
Monsieur l'abbé Jean Bosco.
Et ailleurs.
Monsieur l'abbé Jean Bosco, comment est-ce que vous pouvez soutenir les confessions religieuses qui étaient en forum, qui optent pour une voie de dialogue et ne pas être d'accord avec la table ronde?
Mais oui, est-ce que le dialogue signifie mettre les Banande, les Bahunde, les Babembe, les Babuyu, les Bashi, les Bareza, les Bavira, les Bakuliro ensemble, alors que le problème concerne quelqu'un, par exemple, parlons de M. Nkunda pour ne pas le citer, qui dit, moi je crée mon groupe armé. Est-ce qu'il représente une communauté? Laquelle? On ne comprend pas. C'est quelqu'un qui refuse le bâton. Est-ce que M. Rukunda ou M. Bisogo, qui font la guerre dans les hauts plateaux de Minembo, représentent tous les Banyamulenge? C'est faux, cette histoire-là. Donc, il ne faut pas que des gens qui veulent faire la guerre profitent de la notion de communauté pour pouvoir commencer à faire de la distraction. Le gouvernement du Congo doit prendre ses responsabilités. Ou il casse le mouvement des gens qui font l'insurrection, ou ils cherchent des solutions à leurs problèmes, mais il ne faut pas venir amener les communautés à faire un faux dialogue, parce que l'objet c'est lequel? On va vous dire à quoi avec ce dialogue?
On va à la paix, à quoi?
À la paix, j'imagine.
Jamais de la vie. Ce n'est pas comme ça qu'on aboutit à la paix. Vous pensez qu'en mettant les Baoundé et les Banandé ensemble qui ne sont pas en guerre, vous allez convaincre M. Nkunda d'abandonner les armes s'il a l'intention de prendre le pouvoir ou de se tailler un territoire?
Voilà. Théophile Mirindi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, dans les opinions des auditeurs, il y a Athanase de Goma dans la province du Nord Kivu, pour lui, que ces évêques convainquent le Rwanda et l'Ouganda à négocier avec leurs rébellions respectives, sinon la RDC ne sera jamais en paix. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que l'auditeur me rencontre, il me rejoint quelque part, parce que j'ai parlé tout à l'heure de cette nécessité de convaincre, c'est-à-dire l'initiative qui a été faite, qui a été prise par les évêques, et au niveau synergique, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des évêques, est une bonne initiative et elle est porteuse d'espoir. Mais d'autre part, au niveau maintenant de chaque évêque dans son pays, est-il, a-t-il la possibilité de convaincre celui-là même qui dirige son pays de manière à l'impliquer positivement dans la recherche de solutions? C'est là toute la question. Je voudrais aussi intervenir un peu en ce qui concerne la table ronde intercommunautaire dont on parle. Je me dis, on dit souvent on ne fait rien en dialoguant. Mais j'ai comme l'impression que si beaucoup d'acteurs sont jusque-là réticents à l'égard de ce projet, c'est tout simplement parce que c'est un projet qui cache ses thèmes de référence.
Selon vous?
Sauf peut-être que s'il arrivait peut-être que l'on est convaincu que ces thèmes de référence ont été publiés, mais moi, à ma connaissance, il n'en existe pas. Mmh. Alors, comment peut-on savoir la quintessence, les bien fondés d'une table ronde dont on ignore les termes de référence?
Voilà, on va revenir au thème avec Monseigneur Kouye Ndondo. Avez-vous la possibilité de convaincre les groupes armés, mais aussi les gouvernants de la RDC et du Rwanda? Comme l'a dit, vous avez suivi Théophile Mirindi qui est sceptique, et puis les auditeurs aussi.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez que, en ce qui concerne ce que nous avons parlé, la table ronde, je crois que les amis vous ont dit la position de la population et de leurs leaders. Vous avez évoqué aussi le problème de non par le fauteur. Alors, bon, en ce qui concerne notre façon de convaincre les uns et les autres, ce que nous avons fait, nous ne le faisons pas en cachette. Lors de nos assises, nous avons invité les représentants des autorités. Tous les autorités qui nous ont envoyé les représentants, nous avions été avec un conseiller à la présidence, nous avons été avec le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères et une coopération avec notre pays. Donc, nous sommes en train de pouvoir donc aller ensemble, c'est-à-dire que le gouvernement fasse ce que nous sommes en train de faire pour le soutenir. Mais en ce qui concerne les groupes armés, comme je vous ai dit, nous y allons parce que nous savons que ces groupes armés sont constitués par des hommes en os et en stère qui ont des oreilles pour écouter. Et nous pensons qu'ils peuvent écouter, comprendre et agir.
Donc, vous confirmez que vous êtes en mesure de convaincre les gouvernants des pays, par exemple la RDC et le Rwanda?
C'est-à-dire, nous avons été avec les collègues du Rwanda, les collègues du Burundi, les collègues de l'Ouganda. Ils ont mission de parler avec leurs dirigeants. Mais pour parler, comme l'a dit le verra à Mouridane, pour parler, il faut d'abord qu'on sache exactement de quoi on va parler, qu'on connaisse bien la matière. Et avec, si on a des informations fiables, on peut faire des suggestions au gouvernement.
Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous n'avez pas d'informations fiables, notamment sur le groupe d'armée, pour proposer ce que vous appelez ces informations justement à ces gouvernants pour les convaincre?
Bien sûr, nous avons des informations fiables.
Et vous allez le faire? Et vous allez le faire?
Nos partenaires du Rwanda et du Burundi puissent aussi les avoir.
Voilà.
Pour se parler avec
leur gouvernement respectif.
Voilà. Donc on va.
Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous savons donc donner notre position juste à un certain niveau. Et là, où nous pouvons aller, le gouvernement respectif peut aussi prendre les responsabilités et agir.
Voilà, l'opinion jugera de l'efficacité de votre démarche, Monseigneur Kouyendondo. Nous prenons d'autres opinions des auditeurs avec Kelly Côté.
Doris de Kinshasa se demande comment se sent le gouvernement quand ce sont les évêques qui commencent à chercher des solutions aux problèmes qui touchent la population. Jean-Paul Sogoti d'Ouvira dans le Sud Kivu salue l'initiative des serviteurs de Dieu qui ont constaté que nos dirigeants ne veulent pas s'engager pour le bien-être de la population. Freddy Malebe de Mbandaka, l'Équateur, pose la question suivante. Quel est le rôle du gouvernement? Est-ce que ce sont les évêques qui doivent chercher des solutions pour le retour de la paix à l'Est? Mouindo Kambalu, depuis Goma dans le Nord Kivu, demande comment l'Église va-t-elle persuader ces groupes armés? N'est-elle pas complice elle-même? Et enfin, Emmanuel de Kinshasa demande pourquoi les évêques se donnent beaucoup de peine. Ils doivent laisser cette charge au gouvernement.
Alors, quelle réponse vous réservez à ces auditeurs, Théophile Mirindi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu?
Oui, la réponse comme telle, c'est difficile d'avoir une réponse pour tout le monde, mais je respecte les inquiétudes des uns ou des autres. Vous savez, il s'agit d'une démarche, c'est une démarche qui peut converger, qui peut aller vers des bons résultats, tout comme c'est la démarche en question peut échouer. Et quand les auditeurs s'exprime, on sent que ils ne sont pas vraiment ils ne sont pas convaincus que les choses iront très très bien ou que les choses n'iront pas. Donc
c'est un peu votre scepticisme aussi que exprime l'auditeur.
En général, c'est ça, le scepticisme. Mais je ne pense pas non plus que qu'il faille penser que ça aurait été mieux qu'on ne fasse pas ce qu'on a fait.
Voilà.
Je pense plutôt que on a bien fait d'essayer de commencer, mais il faut souhaiter que ça aille jusqu'au bout et que ça obtienne de bons résultats.
Merci Jean Bosco Bahala, monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala. Votre réponse rapidement, parce qu'on a plus de temps.
Rapidement, je voudrais dire deux petites choses. La première, c'est que, ici, je dois souligner que l'Église catholique, dans son ensemble, n'a pas encore dit qu'elle va prendre telle ou telle initiative. Elle demande simplement que la paix soit faite, et donc nous encourageons également l'initiative qui est prise par les Églises protestantes, avec lesquelles nous sommes de cœur. Mais je voudrais dire ceci, il y a des choses qui peuvent être transformées de l'intérieur. Nous sommes avec le peuple qui souffre. Il y a déjà des relations que nous faisons avec nos peuples. Même quand nos dirigeants sont en guerre, ce ne sont pas nos peuples souvent qui sont en guerre. Lorsque vous entendez parler des dirigeants de tel ou tel ancien mouvement rebelle, etc., vous vous demandez au nom de qui ces gens parlent. Parce que lorsque vous allez dans leur village, les gens ne savent même pas de quoi eux étaient en train de parler, parce que les gens s'entendent là-bas.
Merci monsieur l'abbé. On va donner la parole à Kouyendondo, à Monseigneur Kouyendondo, président provincial de l'ECC au Sud Kivu. Vous n'avez qu'une minute, Monseigneur.
Oui, je dois dire une chose d'abord, c'est que nous ne pouvons pas assister à la mort de nos chrétiens d'une manière passive. Nous devons agir.
Oui, mais là, il y a une question, par exemple, qui d'un auditeur, c'est Mouindo de Goma, il se demande comment vous allez persuader les groupes armés quand l'Église, vous êtes presque complice.
Nous sommes complices de quelle manière? Lui, il connaît comment nous sommes complices, mais nous savons que nous ne sommes pas complices de rien. Nous sommes devant un problème et nous sommes tentés de chercher la solution. Et, comme je l'ai dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Avec l'aide de Dieu, de cette population, même de nos gouvernements respectifs, nous allons tenter de faire quelque chose.
Vous allez tenter de faire quelque chose et dans le concret, dans l'immédiat, quoi par exemple, Monseigneur?
Nous avons dit que nous nous sommes engagés à contacter ces groupes armés. Ça, nous avons dit clairement. Et nous allons les contacter, et nous allons parler avec eux, et nous allons donner les résultats, mais il ne faut pas faire quelque chose de caché.
Merci beaucoup, Monseigneur Kouyendondo. C'est fini pour ce dialogue entre Congolais. Nadim Foula était à la réalisation avec le concours technique de Héritier Sidiakala. Merci à tous et au revoir. Thank you.